Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une figure importante de l'Allemagne du 19e siècle que nous découvrons aujourd'hui, Wilhelm von Kettler. Théologien et homme politique, il a été évêque de Mayence. Il est le père de la démocratie chrétienne et précurseur de la doctrine sociale de l'Église, un engagement qui ne manquera pas de nous éclairer aujourd'hui. Wilhelm von Kettler, l'Église devant l'État, c'est le titre de l'ouvrage de Jérôme Fehrenbach, paru récemment au Cerf. Son auteur nous fait la joie d'être en ligne avec nous depuis Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes historien, germaniste, essayiste, mais aussi inspecteur général des finances. Alors ce livre n'est pas votre premier ouvrage. Pourquoi avoir écrit sur Wilhelm von Kettler?
Je choisis des sujets difficile volontairement, ou des personnes un peu oubliées injustement, et des personnes qui, je crois, peuvent encore parler à notre temps. Il me semble que c'est son cas. J'avais par ailleurs, il y a quelques années, en 2018, j'avais commis un livre sur Clemens August von Gang, qui se trouve être un petit-neveu de Wilhelm Emanuel von Kettler, et donc il me semblait intéressant de voir cette forme de filiation intellectuelle, morale, spirituelle entre le grand-oncle et le petit-neveu, car même s'ils ne se sont pas connus, eh bien, le grand-oncle a une influence extrêmement forte sur l'ensemble de la postérité de ses frères et sœurs, surtout, notamment Clemens August von Gallen, qui est assez connu comme étant le principal opposant du clergé catholique, de l'Église catholique, à la dictature hitlérienne,
oui,
entre 1945.
Effectivement, donc nous allons parler du grand-oncle hein, aujourd'hui, Wilhelm von Kettler. Je vous propose d'apporter aux auditeurs de Radio Présence quelques repères chronologiques. Il est né donc en 1811 à Münster. Il est fonctionnaire prussien. Il était promis à une belle carrière et puis il a été ordonné prêtre à l'âge de 33 ans. Et vous nous parlerez justement de cette vocation hein, qui a mûri lentement. Il devient député au Parlement de Francfort. Il a été consacré évêque 6 ans plus tard. On voit quand même que les choses avancent vite. Il est membre du Reichstag, l'Assemblée parlementaire allemande. Il s'engage en faveur de la liberté de l'Église contre l'État, mais aussi contre la pauvreté. Et nous le verrons, Wilhelm von Kettler est le père de la démocratie chrétienne allemande. Et comme il a une vie à 100 à l'heure, il meurt d'épuisement à l'âge de 65 ans. C'est vrai que son nom est peu connu en France et pourtant il a laissé une empreinte non négligeable sur l'Allemagne par ses paroles, par ses écrits aussi, mais aussi par son rayonnement, par ses actes. Vous écrivez, Jérôme Fehrenbach, que Kettler était pressé de servir, pressé d'aimer, pressé d'agir. Qu'est-ce que ça nous dit de l'homme qu'il était ?
Eh bien, on a un tempérament de feu que lui-même considérait un peu comme un atavisme familial, bien qu'il soit ici une région très calme et très très plate qui jouxte ou précède la Hollande. Et donc, on a un tempérament très très entreprenant dans une période qui invite à l'action, puisqu'on a vraiment le moment de l'enfance et de la jeunesse de Wilhelm sont vraiment celui d'une période de très grandes évolutions, de très grands traumatismes aussi en Allemagne, d'une part, de façon générale, avec tous les événements liés à la Révolution française, à la conquête napoléonienne, à ce qui s'ensuit, avec les redistributions de territoires très très importantes, et puis également important pour l'Église, ne serait-ce que pour une raison qui est très prosaïque et pas du tout spirituelle, désolé, qui est que l'Église allemande en 1803 perd absolument toutes ses possessions, toute son assise temporelle. Or, l'Église allemande, contrairement à l'Église française, était non seulement une puissance économique, mais une puissance politique extrêmement forte dans l'Allemagne d'avant 1789. Donc, Kettler arrive dans une espèce de champ de décombres très compliqué où d'abord sa région sur le plan, la politique régionale qui se décidait précédemment à Münster, avec un prince évêque de Münster, se décide désormais à Berlin, puisqu'en 1815, la Prusse absorbe une partie non négligeable de l'Allemagne de l'Ouest, la région autour de Cologne et puis la Westphalie, la région d'origine de Wilhelm. Et donc, c'est une période extrêmement perturbée qui exige des réactions rapides. À ceci s'ajoute un mouvement de fond qui balaye, qui embrasse plutôt toute l'Europe, qui sont les débuts de la révolution industrielle, avec des changements sans précédent, là aussi, dans les structures rurales et les structures urbaines, puisque, de manière assez curieuse, finalement, on pense à la révolution industrielle en elle-même et à son impact sur la classe ouvrière, mais la classe ouvrière, ce sont d'abord des gens qu'on extrait de la campagne, si je puis dire, dont on transforme profondément la vie d'ouvrier agricole en ouvrier industriel, et tout ceci se vit dans les années 1830-1840.
Avec des conditions de travail qui sont très difficiles aussi. Et c'est là qu'on voit l'intervention de Kettler, justement, pour respecter la personne humaine, hein, parce qu'elle est vraiment au cœur de sa réflexion et de son action.
Absolument, absolument. En fait, le Kettler nous invite à un réveil puissant sur notre propre responsabilité dans le domaine social. Le chrétien ne peut pas rester endormi, et il le fait très très bien et assez violemment, à vrai dire, c'est sa méthode dans différentes homélies qu'il prononce à Mayence, qui n'est pas encore sa ville épiscopale puisqu'il n'est pas du tout encore évêque de Mayence, mais à
Consacré
l'occasion
évêque, oui.
de son séjour à Francfort comme député en 1848. Il est invité à plusieurs reprises pour des homélies pendant la période de l'Avent, et il prononce des homélies extrêmement dures, en tout cas des exhortations extrêmement fortes pour les fidèles, pour justement enfin, ouvrir leurs yeux, enlever leurs petites lunettes obscures et chausser des lunettes
Plus réaliste, en tout
plus
cas.
lucides, plus réalistes, plus lucides sur ce qui les environne.
Oui.
Non, pour lui, la solidarité doit passer d'abord par chacun de nous et non pas par la collectivité.
Oui. Et c'est un homme de contraste, hein, à vous entendre, Jérôme Fehrenbach, puisqu'on entend que c'est un homme de force, un homme qui veut secouer, qui veut bousculer les lignes. Et à côté de ça, c'est un homme de paix véritable.
Oui, c'est un homme de paix véritable. Alors de paix véritable et durable, on va dire, ce qui peut supposer quelques petits conflits préliminaires. Mais c'est une personne qui ne renonce pas aux armes quand il le faut, mais qui est profondément attachée à la paix, que ce soit la paix, je dirais au sens figuré, ou la paix réelle, puisqu'on est aussi dans l'Europe et dans le monde, et en Allemagne en particulier, dans une période de guerre. Hein, la vie de Wilhelm Emmanuel embrasse ou couvre des périodes de guerre, pas seulement larvées, puisqu'on a des guerres qu'on a un peu oubliées, mais qui sont assez importantes en Allemagne en 1848-1852, autour du Danemark et de la question de la succession allemande. On a des guerres intérieures qui sont très importantes, qui culminent en 1866 avec la grande guerre fratricide entre l'Autriche et la Prusse, hein, qui se traduit par des villes assiégées, des villes envahies. Ça paraît un peu étrange, hein, dans un 19e siècle qui nous paraît assez moderne, mais l'Allemagne est mise à feu et à sang à plusieurs reprises pendant cet espace de vie finalement assez court de Wilhelm.
J'aimerais bien aussi vous interroger sur cette double interrogation que Kettler avait, une interrogation radicale, hein, entre la compatibilité entre l'espérance chrétienne et l'État moderne et rationaliste, et puis la viabilité de la liberté individuelle face à l'omniprésence d'un État à la législation conquérante, puisque dans tout ce contexte de guerre au pluriel, hein, et de conflit, il y a vraiment cette volonté, ou en tout cas ce travers de l'État moderne de vouloir tout contrôler.
Oui, alors en fait, Kettler a sous les yeux un cas d'espèce qui est très intéressant, qui est celui de l'ascension de la Prusse, et puis de la rivalité entre la Prusse et l'Autriche, et finalement de l'éviction de l'Autriche et de l'accession de la Prusse à un statut de grande puissance à travers l'Allemagne très profondément renouvelée par son unification en janvier 1871. Et donc c'est pour lui un cas d'école, mais finalement la Prusse qui devient celle de Bismarck à partir de 1862, la Prusse en fait pour lui n'est que un exemple assez caricatural et qu'il analyse avec beaucoup de clairvoyance et beaucoup de dureté. C'est un exemple caricatural d'un phénomène plus général qui est celui pour lui de l'avènement d'États modernes et finalement pour lui, au risque de vous surprendre, mais pour lui, l'État post-révolutionnaire, l'État napoléonien en France, ou l'État du 19e siècle en France, déjà très largement sécularisé, n'est qu'un prolongement, au fond, de l'État du 14e, déjà. Et finalement, l'État prussien, malgré des différences apparentes avec l'État post-révolutionnaire français, n'est qu'un avatar de cet État moderne qui, sous beaucoup de formes, tente à s'emparer de domaines multiples de la vie publique, mais aussi de la vie privée. Et son souci, vous l'avez très bien exprimé dans votre question, et ce qui fait finalement le sous-titre de l'ouvrage, c'est cette question fondamentale non résolue et non résorbée encore au moment où on se parle, de la compatibilité entre un État moderne, rationnel, heureusement, rationaliste, qui se veut ouvert, qui se veut basé sur la tolérance, on s'en félicite, mais aussi un État qui est envahissant, qui prétend régenter, qui prétend au nom de la liberté, finalement, enfin, aller jusqu'au bout d'une déconfessionnalisation de la société et des esprits. Et c'est là que, d'après Quetelin, se posent beaucoup de questions, finalement, sur l'atteinte portée à la liberté de choisir et à la liberté de s'exprimer dans sa foi. Puisque Quetelin estime que la religion, que la foi n'est pas simplement un élément, une composante du fort privé, mais doit bien trouver à s'exprimer pour pouvoir simplement se transmettre. Et pour lui, finalement, cette évacuation de la foi, de l'espace public, est une question extrêmement importante, extrêmement grave. Un des éléments pour lui, un des éléments charnières, un des éléments pivots de ses interrogations, c'est la liberté d'enseignement, la liberté éducative pour les parents par rapport aux enfants.
Sur l'éducation, je vous propose de garder ce point pour un petit peu plus tard, mais je voulais vous faire rebondir sur ce lien qui peut y avoir justement entre Wilhelm von Kettler et puis notre temps d'aujourd'hui et en France notamment, sur cette volonté qu'avait l'État moderne de cantonner la foi à la sphère privée. Ça fait quand même écho à une définition de la laïcité à la française qui aujourd'hui est pas très bien comprise quand même.
En fait, oui, c'est pour ça que ce livre est en fait aussi un ouvrage, je pense, pour prolonger la réflexion aujourd'hui. Et en fait, si vous voulez, comment dire, le concept de laïcité n'existe pas à l'époque où s'exprime le travail Wilhelm von Kettler. En tout cas, en Allemagne, ça s'exprime pas de cette même manière. C'est-à-dire, c'est plutôt au niveau de la vie de son petit-neveu qu'on verra justement la dénonciation par son petit-neveu de ce qu'il appelle la peste du laïcisme à la fin des années 1920. Mais au fond, ce qu'il déplore, c'est cet envahissement, donc de l'espace privé, cette exfiltration de l'élément religieux au nom justement de la liberté de choix, qui n'en est véritablement pas une. Et ajoutons à cela que il redoute une législation très envahissante, d'une façon assez amusante, ça peut beaucoup nous parler aujourd'hui, qu'il voit une menace dans le fait qu'il y ait désormais des parlements qui siègent de manière continue. Puisqu'un parlement qui siège de manière continue, c'est un parlement qui produit trop de
Eh
lois,
oui.
et dans des domaines plus ou moins utiles à la vérité, et qui devient, je crois que ce sont à peu près ces termes, une manufacture, une usine à fabriquer des lois à jet continu, et qui contribue à nourrir non seulement un État obèse, mais une législation proliférante et nuisible. Donc c'est parti de ces préoccupations, cette tendance à l'étalement de l'État et des organes législatifs.
Avec la difficulté d'appliquer justement toute cette loi. Peut-être un mot sur l'homme de foi qu'était Wilhelm von Kettler. Comment vous pourriez définir?
Eh bien, en fait, pour lui, rien n'était complètement évident, au début en tous les cas, mais comme c'est un homme radical et de choix radicaux, une fois qu'il s'est jeté à l'eau, il est devenu, je pense, un ecclésiastique assez exemplaire. Mais bien qu'appartenant à une famille très profondément baignée par un renouveau catholique très important, la charnière du XVIIIe, XIXe siècle, finalement, une vocation de foi, une vocation personnelle, eh bien, ça reste quelque chose de difficile. Et je vous avoue, parmi les multiples raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre, il y a aussi celle de cette vocation pas si simple, qui peut peut-être interpeller des gens qui se posent des questions aujourd'hui. Je trouve qu'il explique, qu'il partage très bien dans sa jeunesse, il y a une correspondance qui a heureusement été conservée, qui est très nourrie avec ses sœurs, en particulier quand il avait une vingtaine d'années. Il se pose énormément de questions, puisque comme vous l'avez rappelé en préambule, il a embrassé une carrière juridique, une carrière de fonctionnaire de l'État prussien. Et donc, lorsqu'il doit abandonner, eh bien, il doit abandonner. Il sait qu'il abandonne beaucoup de choses. Et cet abandon, ce renoncement n'est pas facile. Il l'expose avec beaucoup, je pense, je trouve, de simplicité, même d'humilité, alors qu'on l'a souvent présenté comme un personnage un peu impérial, il est capable de beaucoup d'humilité. Je pense que ça, la simplicité avec laquelle il s'exprime sur ses doutes, sur ses difficultés, nous parle encore. Il a voulu, par rapport à sa vie de foi, il estime vraiment que la foi n'est pas purement intellectuelle, doit être vécue, y compris corporellement. Et il a accordé beaucoup d'importance quand il était jeune à une pratique qui était tombée en désuétude, qui était celle du rosaire, du chapelet en tout cas. Donc il a, notamment quand il était au séminaire, il a eu beaucoup d'intérêt et d'initiative pour remettre cette pratique vraiment au bout du jour. C'était un petit peu passé depuis quelques décennies, un peu passé à la trappe. Et pour lui, il a également mis l'accent sur cela lorsqu'il était le prévôt de l'église de Berlin, l'église Saint-Edwige de Berlin, puis ensuite comme évêque, partant de 1850. Pour lui, la piété, la foi, doit aussi s'exprimer dans des manifestations qu'on qualifierait de populaires, peut-être de folkloriques, mais il accorde beaucoup d'importance au pèlerinage, au lieu de pèlerinage, aux fêtes populaires, alors qu'elles ne deviennent pas trop commerçantes, parce que justement la foi ne s'exprime pas uniquement dans le recueillement et dans la prière, mais doit trouver également une expression dans l'espace public et doit pouvoir s'acclimater à des tempéraments très différents, les uns plus intérieurs, les autres au contraire moins portés à la contemplation.
Vous avez parlé, Jérôme Fehrenbach, des difficultés de l'Église hein, dans ces années 1830-1870. Vous avez parlé d'un champ de décombres, hein, même ça, ce sont vos termes. En quoi Kettler a-t-il contribué à protéger l'Église allemande du monde moderne et à retrouver finalement ses racines ?
Alors, je pense qu'il, plus que de la protéger, je pense qu'il lui a ouvert ou rouvert les yeux, en fait. Hein. C'était son rôle. Assez rapidement apparu comme un meneur de la conférence de Fulda, qui est l'équivalent de la conférence des évêques de France, si vous voulez, de transposer dans l'Allemagne de l'époque. Il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'évêques, enfin, les ressorts territoriaux des évêchés catholiques sont assez importants en Allemagne, donc il y a beaucoup moins d'évêques qu'il y en a en France à la même époque. Et donc, il se retrouve en un cercle assez petit, en fait, à cette conférence qui se réunit à partir des années 1860 de façon totalement régulière, est un très petit cercle dans lequel il infuse très rapidement beaucoup de choses. Alors lui-même a été un tout petit peu influencé au démarrage par un jeune évêque qu'il a connu au moment de sa vocation, au moment de son séminaire, car il a commencé son séminaire en fait, ses études de théologie en tout cas à Munich, qui s'appelle Monseigneur von Reisach, qui l'a beaucoup influencé, qui avait la trentaine, qui était un très jeune évêque, extrêmement tonique également, et qui lui a communiqué, je pense, une part de son énergie. Mais si vous voulez, l'Église de l'époque regardait en arrière, elle sortait d'une période vraiment qui avait encore un impact au moment de la jeunesse de Wilhelm, d'une forme de tiédeur spirituelle, il faut le dire, hein, sous l'effet des Lumières, enfin, l'effet conjugué à la fois peut-être des événements et des Lumières qui diffusaient en Allemagne du XVIIIe siècle. Donc, il y avait toute une génération de prélats un peu âgés et un peu gagnés par une forme de relativisme, d'indifférence, il faut être très net là-dessus. Et puis, elle n'arrivait pas à se remettre non plus de la déperdition de pouvoir temporel en 1803, de la perte de tous ses revenus également. Elle n'arrivait pas à se remettre aussi des changements de frontières, parce qu'en fait, auparavant, les évêchés avaient des frontières déterminées et les évêchés ont été totalement bouleversés avec les changements territoriaux post-napoléoniens. Donc, l'Église était en fait un peu en roue libre. Et également, était un peu enferrée dans des relations compliquées avec les autorités régionales, puisqu'il n'y avait pas vraiment de régime concordataire, il y avait une recherche de régime concordataire dont on sait très bien à la fois les avantages et les inconvénients, parce qu'un concordat, ça peut être aussi le premier pas d'un asservissement au pouvoir temporel. Et donc, l'Église ferraillait énormément le pouvoir temporel dans la multitude de petits États dont l'Allemagne était finalement une forme de mosaïque jusqu'en 1871. Et l'Église était prise dans tout ça, en fait, à la fois dans des discussions très désagréables sur ses libertés fondamentales, la liberté d'enseignement, la liberté de culte et l'intrusion ou non d'un pouvoir temporel très tatillon au niveau régional dans l'exercice des libertés religieuses, les problèmes économiques, les problèmes de territoire, les problèmes de confrontation très forte, et ce qui était très nouveau pour l'Église catholique allemande avec le protestantisme, puisqu'auparavant, jusqu'en 1815, il y a une coïncidence quasi totale entre les frontières territoriales et les frontières confessionnelles. C'est-à-dire qu'il y a un principe posé par le traité de Westphalie en 1648, qui était le principe de l'identité de religion entre, grosso modo, le chef de l'État de chacun des des 250 micro-États qui composaient l'Allemagne et la confession de la population. Donc, il y avait très, très peu de régions mixtes, et brusquement, en fait, l'Église catholique qui vivait dans un
Oui, elle s'est trouvée et
C'est
à partager finalement
assez confortable, c'est protégé, se
l'espace.
retrouver régulièrement dans des zones avec soit une forte minorité protestante, soit au contraire une majorité protestante. Et d'ailleurs, c'est le cas de Wilhelm à deux endroits, donc on se dépourvu beaucoup. Lorsqu'il était prévôt de l'église Sainte-Edwige à Berlin, il avait un ressort territorial extrêmement important de la taille d'un évêché, et il s'est trouvé ultra minoritaire, puisque il y a moins de, en plus de l'Est, il y a moins de,
De
en plus
catholiques, et il y avait
historique,
beaucoup de protestants.
oui, il y a moins de 5% de catholiques, en fait, c'est même vraiment souvent beaucoup moins. Donc c'était très compliqué, une atmosphère assez hostile, pour tout dire, au catholicisme. Et même dans l'Allemagne de l'Ouest, vous voyez, à Mayence, il se trouvait, alors auparavant, l'évêché de Mayence, c'était un évêché très étendu, mais uniquement catholique, avant 1803, mais il se retrouve dans un évêché avec une deux tiers de protestants, ce qui pour lui est totalement nouveau, et donc ça exige une attitude plus combative, en tout cas plus attentive dans la relation avec le pouvoir temporel qui lui-même est protestant. Et donc c'est un peu un phénomène, on va dire un petit peu empoisonnant dans la vie de l'Église catholique en Allemagne à l'époque, puisqu'elle n'était pas accoutumée du tout à ce type de rivalité, voire de conflit. Et elle se trouve à la fois aux prises avec un libéralisme ambiant, avec un protestantisme ambiant qui est directement concurrent et qui est souvent plus en lien avec le pouvoir temporel, et elle se trouve également aux prises avec la déchristianisation, avec une forme de scepticisme, on va dire, libéral-bourgeois, qui se développe beaucoup à partir des années 1830. Et voilà, donc il y a beaucoup de difficultés, et justement, il faut arriver à avoir une énergie, une
Eh oui.
capacité à avoir une vie d'ensemble, que finalement peu de prélats avaient, puisqu'ils étaient occupés par tel ou tel sujet. On a de très bons prélats sur tel ou tel de ces différentes matières, mais une personne qui a un regard aussi couvrant et aussi, j'allais dire, aussi synthétique, aussi stratégique que Kettler sur les difficultés du temps, difficultés de l'Église, mais aussi évidemment plus généralement difficultés du christianisme par rapport au monde moderne, eh bien, il y en avait peu qui avaient ces qualités intellectuelles et morales qui arrivaient à faire finalement le lien, le ciment entre toutes ces problématiques pour proposer une attitude cohérente à l'Église contemporaine.
Et
Donc, il a
avec
vraiment aidé, vraiment l'Église allemande à se rebâtir complètement à cette époque.
Aussi cet amour que Kettler avait pour cet amour de l'Église, hein, en dépit de ses passages sombres, il considérait vraiment le dessein de l'Église beau et grand, et ça renforçait sa fierté d'appartenir à l'Église catholique, et ça nous dit aussi la sainteté de l'Église. Et Wilhelm von Kettler, cet évêque de Mayence, pardon, a vraiment insisté sur cette sainteté de l'Église. Je vous propose, Jérôme.
C'est une chose qu'on va retrouver très très fortement, excusez-moi, chez son petit-neveu justement. C'est
Ah
une
oui,
chose
von
qui aide à
Galen.
tenir, en fait, qui dans ces événements très compliqués a aidé le grand-oncle comme le petit-neveu à tenir au milieu des vicissitudes et parfois des violences de l'époque dans laquelle il vivait, c'est-à-dire cette conviction que par-delà ses propres turpitudes, l'Église fondamentalement n'est ni tout à fait une institution humaine ni complètement une institution divine. C'est quelque chose entre les deux, et qu'en tout cas la mission sacrée, et que malgré quelques errements, quelques difficultés bien sûr, cette mission s'étend sur des siècles et dépasse finalement les accidents de l'histoire que nous vivons au quotidien.
Voilà, et c'est encore là encore une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Je vous propose de marquer une pause, Jérôme Fehrenbach. Nous écoutons la première danse hongroise de Johannes Brahms, qui est un contemporain de Kettler.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour dans cette émission avec Jérôme Fehrenbach pour nous parler de Wilhelm von Kettler, ce prêtre et évêque allemand du 19e siècle, s'est engagé en politique et chose promise, chose due. Vous nous disiez, Jérôme Fehrenbach, qu'il avait été un fervent défenseur de l'enseignement catholique. Pour lui, l'instruction publique représente un danger pour la liberté spirituelle. Comment s'y prend-il dans cette défense?
Alors, en fait, on va commencer par le, j'allais dire, je sais pas si c'est le haut ou le bas ou la fin d'instruction, mais son premier champ d'action très vigoureux, en fait, dès qu'il arrive comme évêque de Mayence, en fait, ça va être la formation des prêtres. En effet, il y a à cette époque-là, et ça, c'est un élément distinctif de l'Allemagne par rapport à la France, un très grand entrisme des pouvoirs publics laïques dans la formation des ecclésiastiques. Alors qu'en France, à cette époque-là, pourtant, sous la Deuxième République, comme sous Napoléon III, on aurait pu imaginer des choses pas forcément très libérales, mais en fait, si, l'État se mêle très peu de la formation des prêtres en France. Eh bien, en Allemagne, si, et donc on prétend régenter. On prétend que le prêtre doit avoir un certain niveau philosophique, un certain niveau de formation théologique, évidemment, mais aussi philosophique, et de sorte que se développent des universités de théologie ça peut faire sourire parce qu'il peut y avoir une filiation jusqu'à aujourd'hui, en Allemagne à cette époque-là, qui sont assez dissidentes par rapport à Rome, qui enseignent de manière un peu novatrice, peut-être un peu trop innovante par rapport à la théologie classique, et en fait sont en réalité des écoles souvent de, ça c'est Bismarck qui le disait en riant, lui-même avait fait quelques études de théologie, je crois que c'était un endroit où il avait perdu la foi, parce qu'en fait ce sont d'excellentes écoles de scepticisme. Et du coup, une des premières préoccupations de Wilhelm, c'est de remettre les séminaristes de son diocèse dans l'orbite d'un véritable séminaire totalement intégré, au front y compris des enseignements de philosophie et de théologie. Donc ça, il fait une espèce de coup en 1850-1851, où en l'espace de quelques mois, il arrive à vider totalement de ses rangs la faculté de théologie laïque, et pour les rapatrier dans son diocèse, dans son seigneur à lui.
Il fait un grand ménage.
C'est amusant. Après, sinon, il s'est occupé très jeune des questions de formation et d'éducation. Il était très jeune attaché à la fécondité que peut avoir la formation spirituelle et évidemment humaniste des enfants. Il a accordé très très tôt beaucoup d'importance à la formation des enfants. Il était très sensible comme vicaire et comme jeune prêtre à partir de 1847. Pour lui, l'âme de l'enfant, c'est quelque chose de merveilleux, de être préservé, développé. Il y a une richesse dans l'âme de l'enfant qui est absolument incroyable. Et il faut donner très tôt à l'enfant non seulement les bons et solides rudiments de l'instruction pour vivre ensuite sa vie au sein de ce monde, mais il faut très vite lui rendre accessibles les réalités spirituelles. Et c'est pour ça que très jeune, il accorde beaucoup d'importance au parallélisme entre l'acquisition des savoirs pour le temporel, savoirs spirituels. Et c'est une époque où, dans l'époque de sa jeunesse, au niveau communal, en tout cas dans les communes rurales, ce qui est son lot au début de son activité de prêtre, eh bien, on accorde encore une place assez importante à l'avis, à l'autorité du curé dans la formation des enfants. Et donc, la formation des enfants dans les communes rurales repose, on va dire, sur un duo entre un instituteur, une institutrice laïque et un prêtre, dans le cadre d'un conseil paroissial qui fonctionne, ou du conseil cantonaux qui fonctionne de façon relativement harmonieuse, malgré un regard un peu sourcilleux des autorités, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, c'est en zone urbaine que les choses se corsent, se compliquent et deviennent source de conflits de ouverts entre des municipalités de grandes villes qui ont une vision très laïque de l'enseignement et l'Église, en fait.
Et finalement, il parvient même dans le milieu, dans la ville, à restaurer cet enseignement catholique.
Eh bien, Mayence, c'est une. Alors, je pense qu'on peut dire qu'il y parvient sans avoir tout à fait gagné les hostilités complètement. Donc, il rompt les lances à de nombreuses reprises. Et la ville de Mayence, dans laquelle il œuvre lui-même, est une ville très difficile, une ville très libérale, très imprégnée par les idées françaises post-révolutionnaires, parce qu'en fait, en 1793, on a non seulement accueilli à Mayence beaucoup d'émigrés français, mais les émigrés français étaient parfois eux-mêmes pétris par la philosophie des Lumières, en réalité. Et donc, c'était l'esprit français a vraiment gagné cette ville-là, avec une tendance au scepticisme, à l'agnosticisme extrêmement forte. Et on a, on peut parler d'une forme de militantisme laïque dans une ville comme Mayence de la part des autorités municipales avec lesquelles donc l'évêque doit ferrailler, parfois de manière qui me paraît un peu déloyale. En fait, il y a des moments où il s'arrange pour que les donations qui étaient prévues, enfin, il se lance dans des analyses juridiques très poussées pour prouver qu'en fait les donations qui étaient prévues étaient en faveur de telle ou telle institution d'éducation était en fait conditionnée par leur caractère professionnel, etc.,
Ah
etc.
oui.
Donc, il ne craint pas d'employer tous les éléments, y compris judiciaires, pour se défendre. Il parvient, je pense, à restaurer un bon équilibre, mais évidemment, je pense que, et du coup, à restaurer une véritable liberté, c'est-à-dire que les parents qui, à Mayence, souhaitaient donner à leurs enfants une éducation non confessionnelle le pouvaient, et réciproquement, ceux qui souhaitaient l'éducation imprégnée par le christianisme le pouvait également,
Oui.
ce qui n'était pas tout à fait le cas au moment où il est arrivé. Donc ça, on peut dire qu'en
Ben voilà, c'est un
1870, il avait
progrès.
réussi à restaurer une offre équilibrée.
En tout cas pour.
Et ce qui est assez amusant, vous voyez, c'est qu'on imagine souvent comme Français que ce conflit est spécifiquement français, très accusé, très aiguisé
Oui, mais là,
en
on
France.
découvre
Oui,
qu'en
c'est vrai, il l'a
Allemagne.
été. Et moi, en reparcourant cette partie d'histoire allemande, j'avais redécouvert à quel point cette tendance était en fait assez universelle en Europe, en tout cas
Oui.
dans l'Europe où les universités sont importantes et forment des contingents importants. On a en Allemagne toute une, à partir de 1820, des générations entières de personnes qui ont été formées dans des universités prestigieuses, mais donc des universités plutôt très, très, très laïcisées, très sécularisées, et qui offrent un contrepoids extrêmement important, extrêmement fort à l'Église.
Oui, en tout cas, voilà, ça, là aussi, ça nous inspire pour cette liberté d'enseignement qui est en France et qui est aujourd'hui mise à mal. Un mot peut-être sur ce qui peut nous questionner, hein, sur cet évêque qui était quand même engagé en politique, puisque je le disais en introduction, hein, quand il a été consacré évêque, il est aussi membre du Reichstag, l'Assemblée parlementaire allemande. Comment peut-on comprendre cet engagement d'un ecclésiastique en politique, comment c'était possible en Allemagne?
Alors c'est une réaction en fait d'urgentiste, si je puis dire, ou de pompier. Wilhelm von Kettler a été député à deux reprises entre mai 1848 et janvier 1849, donc c'est un laps de temps court. Je vais revenir sur cette période, puis ensuite entre février 1871 et janvier 1872. Donc à chaque fois, ce sont deux espaces de temps très courts dans des contextes historiques très différents. Le premier, c'est celui de la révolution de 1848 en Allemagne, où l'Allemagne s'interroge doublement ou triplement sur sa vocation. Il y a des aspirations sociales très importantes, une crise économique extrêmement grave comme toute l'Europe, des renversements de monarchie ou de régime de travail. Toute l'Europe. Donc l'Allemagne hésite entre ses limites territoriales plus ou moins dilatées, entre des régimes plus ou moins libéraux sur le plan politique, un rassemblement ou non autour de la Prusse, etc., etc. Une question sociale qui est extrêmement importante. Et dans ce contexte-là, l'Allemagne en 1848 songe à se doter d'une constitution fédérale, et c'est pour ça que se réunit à Francfort un parlement dont il fait partie pendant donc un peu plus de 8 mois. Et pourquoi n'y reste-t-il que 8 mois, à vrai dire? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'en fait, il sent bien vers la fin que, compte tenu de l'intensité de la réaction des monarchies européennes, que ce soit en Autriche à partir d'octobre et en Prusse, de toute façon, l'exercice tournera court, mais aussi parce qu'en fait, il est persuadé que son œuvre est terminée. Alors pourquoi Wilhelm von Kettler, né député, n'accepte de l'être, ne veut l'être que pour défendre les libertés de l'Église et la liberté de l'enseignement? Les autres sujets ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est
Ils sont seconds.
constitutionnellement, que ce soit en 1848 avec ses esquisses de constitution allemande fédérale ou en 1871 avec le nouveau régime d'Allemagne unifiée sous la houlette de la Prusse. Ce qui l'intéresse, c'est que dans ce cadre-là, les libertés religieuses soient consacrées, y compris la liberté de formation des prêtres, que la liberté de l'enseignement soit garantie, que la liberté d'exercice du culte, évidemment, soit garantie, et que l'Église puisse ainsi vivre en paix. Au-delà, les formes politiques du gouvernement, le plus ou moins au degré de liberté, de démocratie, lui importe moins. Ce qui lui importe véritablement, c'est cette notion de liberté intérieure-extérieure pour que le chrétien puisse se développer. En fait, pour lui, ce qui est très important, c'est la notion d'État chrétien. Alors, loin de lui, l'idée de revendiquer que les États doivent être des théocraties, ou dirigés, ou même influencés par les Églises. En revanche, ce qu'il souhaite, quand il parle, lui, d'État chrétien, dans une filiation de saint Thomas d'Aquin, c'est que simplement l'État offre un cadre législatif et moral pour que les vertus chrétiennes ne soient pas tournées en dérision, ne soient pas tournées en
Donc
ridicule,
une forme de
parce que les vertus
respect.
chrétiennes, voilà une forme de respect dans laquelle les vertus chrétiennes peuvent s'épanouir, parce que l'on soit chrétien ou non, Et je pense d'ailleurs que cette analyse peut encore porter pour notre temps. Les vertus chrétiennes sont des vertus éminemment sociales qui peuvent servir fondamentalement de socle dans lesquels de socle à la société, de socle pour le vivre ensemble, de ciment pour le vivre ensemble. Ça, il en est convaincu. Donc pour lui, l'État chrétien, c'est un État qui pas forcément un État qui serait en connivence avec les principales confessions chrétiennes, mais c'est vraiment un État qui, en tout cas, n'est pas hostile, qui favorise, quel que soit le mode opératoire, favorise le déploiement, le développement des vertus chrétiennes qui sont fondamentalement bonnes pour la personne et pour la société dans son ensemble.
Et donc qui va profiter à tous.
C'est vraiment ce qu'il cherche à sauvegarder en 1848 comme en 1871. Dans un cas comme dans l'autre, l'affaire est assez difficile et en 1871, il va lutter pour que l'Allemagne unifiée ne soit pas en retrait des libertés constitutionnelles accordées en 1849 par la Prusse à l'Église catholique. Et le paradoxe, c'est que l'Allemagne unifiée de 1871, bien qu'incorporant des éléments catholiques, puisqu'il y a à peu près un bon tiers de catholiques dans cette Allemagne-là, eh bien, a moins de garanties de liberté que la Constitution ou ce qui y ressemblait prussienne de 1849 avait concédé à l'Église catholique. Donc ça, il est un peu déstabilisé de ce point de vue-là, et c'est ce qui va justifier ou permettre, en tout cas, après, dans les années 1870, le fameux épisode du Kulturkampf, cette espèce de persécution, en tout cas d'épisodes de tracasserie très très longue et très violente hein, du pouvoir contre l'Église catholique.
Pour terminer, Jérôme Fehrenbach, j'aimerais bien que justement sur cet engagement de Willem von Kettler en politique, quelle réflexion ça peut nous donner de l'existence et de l'influence d'un parti politique chrétien ?
Eh bien, en fait, alors d'abord une réflexion pour son époque, puis pour l'époque actuelle. Alors, pour son époque, on a fait en France et en Allemagne des choix très différents, on va dire, à partir de 1870. En France, en 1870, les catholiques ont été pour l'essentiel obnubilés par un rêve, jusqu'à vers 1880, de restauration monarchique. Et donc, ils ont confondu, je dirais, leur propre destinée avec une forme de restauration des Bourbons, quelle qu'en fût la branche. Et finalement, ça a probablement pas mal pollué la réflexion des catholiques français à cette époque-là, la réflexion politique. Et donc, ils n'ont pas vu que l'Église, en tant que telle, présentait des enjeux. La vocation du parti politique, du Zentrum, qui était, même s'il s'en défendait, suscité par Wilhelm à partir de la fin des années 1860, et qui est en exercice dès 1871, et qui remporte beaucoup de sièges électoraux dès 1871, la vocation de ce parti n'est pas de prendre gouverner. Le pouvoir, c'est un parti qui reste, qui est conçu comme un parti d'opposition, mais un parti politique présent au Parlement, défendant non pas tel ou tel potentat ou telle lignée dynastique, mais défendant les libertés de l'Église, les libertés de conscience. Donc, des personnes extrêmement fortes qui peuplent le Parlement fédéral allemand par le Reichstag à partir de 1871, et qui, jusqu'en 1890, ont porté le fer de luttes extrêmement fortes. Et en France, on n'a pas eu vraiment le même niveau de représentation parlementaire, c'était une conviction que l'Église, en tant que telle, doit être protégée et promu comme instrument des libertés. Je pense que jusqu'avant 1900, les catholiques français ont raté le coche, n'ont pas vraiment vu cela. Mmh. Et alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, je pense qu'on est dans le monde contemporain, on est toujours dans le même dilemme, c'est-à-dire que l'Église n'a pas à être un pouvoir, évidemment. Elle peut tout au mieux, et elle doit sans doute être un contrepoids et d'une certaine manière, non pas forcément peser, mais en tout cas au moins être présente dans le débat et dans le débat public. Ouais. Et ce qu'elle ne parvient plus à faire en France pour une raison simple, c'est qu'on a perdu l'habitude de voir la foi s'exprimer, ou en tout cas une référence religieuse s'exprimer dans la sphère publique, alors que cette habitude n'a pas été perdue en Allemagne. Je ne dis pas que tous les jours au Bundestag des personnes se revendiquent leurs attaches religieuses, mais en tous les cas, c'est plus naturel, en tout cas c'est moins contre-nature qu'en France. Plus personne en France n'oserait aujourd'hui dans un hémicycle se revendiquer de ses racines chrétiennes. Je pense que ça serait très très compliqué. Et en Allemagne, ça a été permis par le fait que, tout en restant une construction très imparfaite, la démocratie chrétienne allemande a permis de garder ou de développer cette référence qui n'est pas tout à fait devenue une habitude, mais permis de développer cette référence qui est à mon sens assez, assez sacrée. Ce qui est difficile, c'est que forcément un parti politique, il a au bout d'un moment, il a pour mission de prendre le pouvoir d'une certaine manière.
Il y a une
forme d'antinomie, si vous voulez, qui n'est pas soluble. Et c'est vrai qu'à partir des années 1900, 1914 en particulier, en Allemagne, le Zentrum était beaucoup plus proche du pouvoir, au point qu'il y a un des derniers chanceliers du Reich qui était du Zentrum, Hertling, à partir de 1917. Et donc, Du coup, il y a une forme de confusion qui a commencé à se glisser à cette époque-là entre l'exercice du pouvoir, la conquête du pouvoir, la défense des libertés de l'Église, alors qu'au début de cette roue, pendant les 20 premières années de son existence, la partie assez pure, très très orientée sur cette sauvegarde des libertés de l'Église, de la liberté de conscience, de la liberté intérieure. Mais je reconnais que c'est très difficile et il n'y a pas de réponse, je pense, qui soit préfabriquée automatique pour notre temps. Et pourrait-on d'ailleurs aujourd'hui restaurer des partis authentiquement démocrates chrétiens? C'est probablement assez compliqué vu l'état de la société, l'état des forces politiques en France aujourd'hui.
En tout cas, ça alimente notre réflexion. Je vous remercie beaucoup, Jérôme Fehrenbach. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions du Cerf, Wilhelm von Kettler, L'Église devant l'État, un livre extrêmement bien documenté, passionnant à lire. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Un grand merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.